Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et cette semaine, justement, nous allons revenir sur le thème du dernier numéro de la revue, se réinventer après la crise. La crise, évidemment, c'est celle du Covid, la crise sanitaire. Et la revue s'est penchée et interrogée un certain nombre de penseurs, de philosophes, de responsables politiques, d'universitaires, sur la manière dont nos sociétés allaient être transformées, modifiées par cette crise. Et en particulier... On abordera avec mon premier invité, Olivier Babeau. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens, également professeur et chroniqueur, et auteur du Nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités aux éditions Buchet-Chastel. Et vous le dites dans votre ouvrage, la crise du printemps 2020 aura consacré le triomphe du numérique. Et à travers, je dirais, cette omniprésence et cette prise de pouvoir du numérique sur nos vies, c'était porteur d'énormément d'espoir, d'émancipation, de liberté, de diffusion des idées démocratiques. Et si je puis dire, en réalité, vous êtes amené à nous faire réfléchir aussi sur des conséquences qui seraient pas tout à fait celles-là et sur une vision un peu moins irénique de ce développement et de cette omniprésence du numérique dans nos vies.
Oui, la crise sanitaire, et comme souvent les crises, a été un révélateur, un accélérateur de tendances qui existaient déjà et qui nous sont apparues encore plus fortement. Alors ce qu'a révélé la crise, c'est notre dépendance grandissante aux technologies numériques. C'est vrai que c'était extraordinaire quand on était en confinement. Heureusement qu'on avait la capacité de communiquer, d'avoir des contenus vidéo, pour beaucoup d'entre nous de travailler. Tout ça, c'était permis par ces nouveaux outils dont beaucoup n'existaient pas il y a 20 ans, et on peut s'en féliciter, on serait sans doute devenu fou sans ça. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que notre degré de dépendance à ces outils a encore augmenté, il s'est encore affirmé, et tous les éléments négatifs qui vont avec. C'est-à-dire cette dépendance à des outils qui vont orienter la façon dont l'opinion se construit, qui vont changer l'économie, qui changent de façon générale l'économie de la valeur ajoutée, la façon dont la valeur se crée, se capte. Tout ça, on a pu le constater pendant la pandémie. Ouais.
Et donc, effectivement, vous nous dites finalement que on avait déjà en germe un certain nombre de pratiques, mais qui ont explosé. On pense en particulier au télétravail, mais aussi à la visioconférence. Mais ça s'accompagne aussi parfois d'une perte de sens, d'une plus grande verticalité, voire même brutalité des rapports humains, d'une forme de déshumanisation. Et donc, en fait, on continue à travailler avec des outils d'une certaine modernité, mais en réalité... Les salariés, les entrepreneurs ne s'y retrouvent pas forcément dans la qualité de la relation au travail.
Oui, je suis le premier à me réjouir de la possibilité de télétravailler. Quand on peut le faire, c'est formidable. Il n'y a que 40% des emplois qui sont télétravaillables. C'est évidemment pas le cas si vous êtes un chauffeur de bus ou un coiffeur. Évidemment, là, vous devez être évidemment sur le lieu. Mais pour 40% de ces emplois, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Pourquoi ? Parce que on a vu avec l'entreprise qu'en effet, on était à distance. On était à distance aussi des rapports humains qu'on pouvait avoir avant. On peut du coup développer une forme de travail peut-être déshumanisé, moins chaleureux, avec une possibilité pour nous de moins voir le sens, évidemment, de ce qu'on est. Une entreprise, c'est une sorte d'aventure collective, c'est un groupe humain à la poursuite d'une action commune. Bon, et si vous êtes chacun dans votre coin, finalement, il n'y a plus du tout cette notion d'action commune, d'action coordonnée. Et donc, vous pouvez perdre tout le sens que vous vouliez mettre dans le travail. Et je pense qu'on perd aussi peut-être la créativité, tout ce qui germe dans le fait d'être ensemble et d'accomplir une tâche en commun. Donc le télétravail à terme peut être autant un danger qu'une opportunité. En tout cas, c'est un vrai défi pour l'entreprise parce qu'il en change aussi même la forme. Demain, on peut imaginer d'ailleurs que des travailleurs soient très loin, soient même de l'autre côté de l'océan. À partir du moment où ils sont plus physiquement dans vos bureaux, l'entreprise peut devenir une entreprise réseau, mais à ce moment-là, c'est plus du tout la même chose.
Alors, parmi les effets peut-être non désirés, il y a aussi le sentiment que peuvent vivre un certain nombre de salariés d'un envahissement de leur sphère privée par la sphère professionnelle, puisque maintenant on communique par des boucles WhatsApp, par des SMS, donc vous avez des patrons ou des managers qui peuvent en user, voire en abuser, et d'une certaine manière, la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle, on va au bureau, on est dans la vie professionnelle, et puis ensuite on retourne chez soi, et là on est avec sa femme, sa famille, ses enfants, et on est un peu dans une bulle. Finalement, cette bulle, elle a un peu explosé, ou en tout cas, elle est fragilisée par l'irruption de tous ces nouveaux modes de communication.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est formidable de pouvoir travailler de n'importe où et du coup, de plus absolument être enchaîné à un bureau à certaines heures. Et on en profite tous et ça permet peut-être de mieux organiser ses vacances. Quand on est en télétravail, pourquoi pas d'aller chercher des enfants à l'école tout en travaillant. Mais en même temps, la différence entre vie privée et vie professionnelle disparaît, se trouble, il y a un flou de plus en plus grand, et le risque, naturellement, c'est que vous travaillez tout le temps. C'est que quand le temps de transport que vous économisez, qui est effectivement extraordinaire par rapport au fait d'aller au bureau...
Oui, à la contrainte de se déplacer tous les jours au bureau.
Ça peut être 1h30, 2h, pour un francilien, typiquement, de perdu chaque jour dans les transports, sur une année, c'est absolument énorme. Tout ce temps-là, vous vous dites, mais je peux le garder et puis me le réapproprier dans mes loisirs. En réalité, non, il est plutôt réinvesti dans le travail. On travaille plutôt plus quand on est en télétravail. La difficulté est de poser des frontières entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et c'est de plus en plus dur. La facilité que vous avez à relever vos emails, à recevoir des appels, à recevoir des messages sur WhatsApp, à réagir, fait que vous avez tendance à répondre tout le temps, même le week-end, même en vacances, même tard. Et on a aussi tendance à exiger de vous implicitement une réactivité en permanence. Voilà. Mmh. Et les deux choses, évidemment, s'alimentent. Vous allez vous sentir besoin, vous allez sentir qu'il faut absolument que vous soyez connecté et réactif. Évidemment, ça peut nuire à la qualité de vie à terme.
Alors on parle de la question des mutations du monde du travail, enfin des mutations que le numérique opère sur le monde du travail et la manière d'être dans son entreprise ou dans son rapport avec les autres salariés ou avec le manager. Il y a un autre aspect que vous soulignez dans votre ouvrage, c'est contrairement à une idée un peu peut-être certains diront naïve, où on a l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde, d'abord que tout le monde y est, et ensuite que sur ces réseaux sociaux, on est à peu près tous égaux. Et en fait, vous dites non, attention, il y a au contraire des fossés qui se creusent entre des gens qui sont ultra hyper connectés et d'autres gens qui, eux, ont décroché. Et plus, le numérique s'empare de nos vies quotidiennes avec la dématérialisation de tas de processus administratifs dans nos vies personnelles, dans le commerce aussi, dans nos achats, etc. Eh bien, en fait, plus on va dématérialiser et moderniser tout ça avec le numérique, plus il y a des gens qui vont être exclus de tous ces nouveaux process.
Oui, vous avez avec la montée en puissance des technologies dans nos vies, un problème qui se pose d'abord, c'est la fracture numérique, c'est-à-dire la situation de gens qui sont éloignés des technologies et du coup pour qui beaucoup d'actions, d'actes administratifs, d'actions d'achat deviennent de plus en plus difficiles. Un monde où de plus en plus de gens vivent en ligne, font des choses en ligne, évidemment vous allez vous éloigner de tous les gens qui sont, comme on dit aujourd'hui, en situation d'électronisme. Donc c'est des gens qui ont du mal à aller chercher de l'information, remplir des formulaires, qui sont pas familiers de ces nouveaux outils. Donc évidemment, vous vous créez un fossé. Ce fossé, il existe aussi professionnellement. Quand vous avez la capacité à utiliser les outils technologiques, l'intelligence artificielle, les nouvelles puissances informatiques pour mieux travailler, pour avoir un travail à plus forte valeur ajoutée, vous gagnez plus d'argent, vous avez une réussite professionnelle qui profite de ces nouvelles technologies. Mais pour bien d'autres, les nouvelles technologies, elles agissent plutôt comme des remplacements de votre propre compétence. La robotisation commence à supprimer les comptables, par exemple.
Faut pas oublier on pense aux fameux automates qui remplacent les caissières, même si on nous dit que ça crée aussi des emplois à côté, mais...
Exactement, sauf que c'est pas du tout les mêmes emplois. Vous avez dans un sens, vous avez d'abord des emplois peu qualifiés qui sont remplacés par des emplois plutôt qualifiés d'ingénieurs, d'entretien technique. Donc ce sont pas les mêmes. Donc il y a une destruction créatrice, hein, comme le dit Schumpeter, mais cette destruction créatrice, elle crée la question du passage de l'un à l'autre. Que faites-vous des caissières? Ça implique des formations, ça implique une réflexion sur sa compétence en permanence, et c'est probablement ça le problème ou l'enjeu majeur de notre siècle, c'est que nous sommes dans un siècle qui avance beaucoup, de plus en plus vite, où les évolutions technologiques vont périmer les compétences. Et donc, plus que jamais, on doit tous évoluer en compétences toute notre vie, et ça c'est très difficile. Quand vous n'êtes pas très formé, par définition, c'est que vous n'avez pas l'habitude de vous former, et donc évoluer, c'est difficile. Donc le risque, c'est que cette société numérique, qui a plein d'avantages...
Une société à deux ou trois vitesses même.
Exactement. Elle laisse aussi plein de gens. On peut prendre l'image d'un train qui va de plus en plus vite. Bah, les gens qui sont sur le quai, ils sont de plus en plus loin si vous n'avez pas pu monter dans le train. Donc l'enjeu éducatif, il est plus fondamental que jamais. Ouais.
Alors quand on additionne tous ces risques ou toutes ces difficultés, vous êtes... vous dites, et c'est pas un discours qu'on entend souvent, le numérique va détruire, alors j'imagine, on pourrait ajouter peut-être, la civilisation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que ce qui est menacé, c'est notre mode de vie, mais aussi nos libertés, et plus généralement peut-être notre démocratie. On voit déjà à quel point la démocratie est, je dirais, brutalisée par les réseaux sociaux, par l'irruption des réseaux sociaux et par l'omniprésence aussi de l'image et le poids aussi de ce qui circule, de ce qui est mis en ligne. Est-ce que effectivement, vous pensez qu'il y a un risque réellement de déstabilisation de nos sociétés démocratiques?
Le numérique, c'est un ouragan qui déracine tout. L'économie, la société et la politique aussi. Donc on est en train de s'en apercevoir, mais l'espèce de désordre informationnel créé par le tsunami de données auquel on a accès sur Internet change aussi la façon dont la politique, les mécanismes politiques, la façon dont l'opinion se construit, dont les échanges, dont les débats politiques se font. On constate une capacité ou une tendance des systèmes sociaux, enfin, des réseaux sociaux à hystériser les débats, c'est-à-dire à concentrer, à agréger les gens autour des expressions les plus
radicales,
fortes,
les plus
radicales, parce que c'est celles qui ressortent exactement. Donc vous avez une sorte d'effet de surenchère en fait. Hein. Moi je prends un peu l'image d'une sorte d'effet de Larsen informationnel. Vous savez, comme quand vous avez deux micros face à face, il y a un effet Larsen. Et ben là c'est un peu Larsen informationnel où les informations s'amplifient, deviennent extrêmes.
Une forme de polarisation vers les extrêmes.
Voilà. Oui, exactement. Exactement. C'est les débats s'hystérisent. Et les positions politiques, du coup, se polarisent, et on a du coup, alors qu'on pensait que Internet allait permettre le débat démocratique et l'avènement du consensus, on a tout le contraire, on a une incapacité...
C'est plutôt la généralisation du dissensus.
Voilà, c'est ça. C'est une cristallisation de dissensus sur des positions extrêmes avec du complotisme, des fake news, une sorte d'abolition de la vérité, plus de différence entre les niveaux de locuteurs, la vérité et l'opinion et le délire. Et tout ça dans cette espèce d'immense maelstrom informationnel finit par se traduire par une forme de crise institutionnelle dont on a vu les conséquences dans beaucoup de pays, mais dont on s'apprête aussi à voir les conséquences en politique chez nous.
Alors peut-être un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, peut-être pour dire qu'il faut finalement aujourd'hui réfléchir à des garde-fous, à des de nouvelles règles peut-être, pour bien réguler. C'est difficile de réguler un ouragan, puisque par définition l'ouragan déborde. Mais en un mot, quelle piste vous ouvririez sur ce domaine-là?
Ces nouvelles technologies, elles n'ont pas été livrées avec un mode d'emploi. Et c'est ça notre défi, c'est qu'on doit élaborer nous-mêmes le mode d'emploi de ces technologies qui nous sont données, comme si on les avait trouvées, on est tombé dessus, et puis on les a intégrées à notre vie. On les a fait rentrer d'ailleurs un peu comme le cheval de Troie dans la ville de Troie, sans trop réfléchir à ce qui allait se passer. Et donc on doit concevoir ces nouvelles régulations. Les réseaux sociaux sont en train de chercher des façons d'empêcher l'hystérisation, par exemple. On doit chercher une nouvelle façon de contrôler des entreprises géantes qui grandissent.
Les GAFA, notamment.
Les GAFA, grâce au Google, Amazon, etc., Facebook, Apple.
Les nouveaux maîtres du monde.
Les nouveaux maîtres du monde, des espèces de nouveaux féodaux, en fait, qui vassalisent l'économie. Donc il faut trouver de nouvelles formes, de nouvelles façons de créer des contre-pouvoirs et de limiter les pouvoirs monopolistiques. Donc il y a énormément de questions qui se posent. Et la première des choses, sans doute, c'est pour le citoyen, le consommateur, le travailleur, de reprendre le contrôle de lui-même, reprendre le contrôle de sa cognition, faire attention aux dépendances aux écrans, faire attention à ses sources d'informations. Donc le secret, il est, comme toujours à mon avis, dans la capacité de l'individu à être autonome, doté d'un esprit critique et résistant aux tentations et aux influences. Ça, c'est sûr que c'est quand même la première action importante. Et puis, dans un monde de plus en plus technologique, qui exige de nous d'être complémentaires de la technologie, on doit aussi se former en permanence. Donc cet effort de formation, c'est un mode de vie qu'on n'a probablement pas encore assez embrassé, parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on n'était plus dans le XXe siècle et ce monde de technologie relativement stable, mais dans un monde de technologie à la croissance et à l'évolution exponentielle.
Merci beaucoup, Olivier Babeau, d'avoir réfléchi avec nous à cette après-crise, même si on n'est pas totalement sorti de la crise sanitaire. Mais pour une fois, on n'a pas parlé des aspects purement sanitaires, mais on a parlé des autres aspects de cette crise, puisque la crise, c'est aussi souvent les moments où les transformations s'accélèrent, où les émergences se font. Donc je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens, et professeur et auteur aussi d'un ouvrage, notamment Le Nouveau Désordre Numérique. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, et on vous remercie.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Et pour cette émission qui est consacrée au thème de la revue politique et parlementaire du dernier trimestre de l'année, se réinventer après la crise. La crise, évidemment, c'est la crise sanitaire, la crise du Covid. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
Je rappelle que vous êtes professeur associé Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et ce que j'ai envie de vous poser comme première question, c'est alors même que la crise n'est pas encore totalement terminée, même si on espère que sur le volet sanitaire, on approche de la fin peut-être, en tout cas on peut tous l'espérer, pourquoi avoir décidé dès cette fin d'année 2021 de commencer à tirer un petit peu des leçons, à réfléchir aussi de manière prospective sur les enseignements et aussi, et peut-être surtout, c'était le thème de notre entretien avec Olivier Babeau, sur les conséquences et les transformations parfois très profondes et peut-être durables que cette crise aura eu sur la société?
Écoutez, il nous a apparu en effet intéressant de d'essayer d'interroger un certain nombre d'auteurs, de spécialistes, d'universitaires, d'entrepreneurs, de scientifiques, d'économistes sur finalement les conséquences de cette crise et en quoi cette crise avait aussi à sa façon amplifié des phénomènes qui avaient commencé à apparaître avant le surgissement de l'épidémie. Parce que cette crise est intéressante en ce sens où on a parfois le sentiment, enfin l'histoire le dira, qu'elle relie deux mondes, un monde qui est peut-être le monde d'après, je ne sais pas, on le verra, mais aussi le monde d'avant qui avait laissé apparaître un certain nombre d'éléments nouveaux qui traversaient la société. Donc on a voulu avoir une vision un peu panoramique, si vous voulez, à 360 degrés, de toutes les leçons que l'on pouvait tirer de cette pandémie planétaire qui quand même avait profondément bouleversé l'ensemble des sociétés à l'échelle de la planète, et essayer de faire réfléchir de manière très croisée des spécialistes qui ont essayé chacun de leur côté à la fois de nous expliquer ce qui avait été révélé par cette crise et ce qui éventuellement pouvait éventuellement sortir dans les années qui viennent.
Alors justement, quelles sont les contributions qui vous ont le plus marqué et sur quel sujet surtout il semble que la crise marquera un avant et un après?
Bah, si vous voulez, c'est une crise qui, par la force, j'allais dire, spécifique qui est la sienne, qui interroge tous nos modèles, le modèle social, le modèle économique, le modèle culturel, le modèle politique, et évidemment aussi l'ensemble de la géopolitique. Il y a plusieurs, si vous voulez, il y a peut-être plusieurs enseignements, mais il y a trois gros enseignements peut-être qui sont aujourd'hui un peu plus saillants que les autres. Le premier enseignement, c'est que, clairement, cette crise a finalement s'est caractérisée par peut-être l'idée que la mondialisation n'était pas forcément un phénomène qui était heureux. On le pressentait d'une certaine manière, mais là, ce à quoi ont pu assister un certain nombre d'États et d'opinions publiques de ces États, c'est que un certain nombre de sociétés, ça a été vrai notamment en France, avaient abandonné un certain nombre de leviers stratégiques qui, justement, dans le cadre d'un monde de plus en plus mondialisé, venaient à les fragiliser. Je ne reviendrai pas sur les différentes controverses qui ont émaillé cette crise autour de la crise du système hospitalier, mais on voit bien qu'en France, en tout cas, cette crise sanitaire a mis en lumière le fait que l'État était d'une certaine manière un levier qui avait été déclassé dans sa fonction stratégique depuis de trop nombreuses années. Alors le phénomène, encore une fois, n'était pas nouveau dans sa perception, mais il a été vraisemblablement très amplifié par l'épidémie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette crise a fait aussi apparaître au plan international l'émergence d'un modèle, ou peut-être le leadership d'un modèle, qui était un modèle qui finalement articule à la fois le capitalisme, une société de surveillance hautement technologique et des régimes qui ne sont pas des régimes forcément démocratiques. Pour aller très vite, quelque part, c'est ce qu'explique par exemple un de nos contributeurs, Charles Zordib, grand maître en matière de relations internationales, que cette crise montre qu'il y a un modèle qui semble aujourd'hui l'avoir emporté, en tout cas dans l'immédiat, c'est le modèle chinois. Alors ça ne veut pas dire, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur en l'occurrence hein, sur cette victoire, mais on voit bien que finalement même les sociétés les plus démocratiques ont été obligées de recourir à des mesures qui sont des mesures d'exception,
qui sont vécues par une partie des populations comme liberticides, et, ou en tout cas...
Considérées par une partie des populations et une partie des opinions comme liberticides. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, c'est que ça a fait réinterroger beaucoup de... Et c'est Raymond Soubi, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy sur les affaires sociales, grand spécialiste justement du terrain social, qui explique que nous vivons bien évidemment une période de fort changement de notre économie et de notre société, mais qu'il y avait un phénomène qui était apparu, c'est que beaucoup de nos concitoyens, en France, mais ailleurs aussi, et notamment dans des sociétés, encore une fois, démocratiques, s'étaient interrogés sur leur propre carrière, sur leur propre trajectoire, sur leur propre ligne de vie professionnelle, et que l'on avait assisté aussi, et, alors peut-être parfois à bas bruit, et parfois d'ailleurs dans certains secteurs de manière plus, j'allais dire, visible, à une forme de renonciation à des carrières professionnelles, à des trajets professionnels, pour finalement des réorientations d'un type nouveau. Donc on voit bien que, si vous voulez, à travers ces trois exemples, à la fois la remise en cause du rôle de l'État, ou là peut-être la restauration implicite du rôle de l'État, le fait qu'on a aussi un modèle qui, sur le plan à la fois idéologique, économique, politique, est apparu comme un modèle dominant, et cette interrogation parfois individuelle d'un certain nombre d'acteurs, que cette crise a touché toutes les échelles de l'existence, à la fois l'échelle des États, l'échelle de l'international et l'échelle des individus. On a là finalement un phénomène qui est un phénomène total, qui constitue en effet une vraie nouveauté, peut-être en tout cas au XXIe siècle. Par le passé, on a connu des crises similaires, les guerres mondiales évidemment, qui ont profondément bouleversé les paysages à la fois des individus, des États et du monde. Et là, on est à peu près dans une crise de ce même type. Alors, c'est pas une crise guerrière en l'occurrence, c'est pas une guerre, c'est une crise sanitaire. Mais en tout cas, ça nécessite récemment de réfléchir à l'après.
Alors, il y a quand même eu effectivement un certain nombre de certitudes, et en tout cas des manières de percevoir le fonctionnement de nos institutions et de nos sociétés qui ont été un petit peu ébranlées. On pense notamment aux piliers scientifiques, qui en particulier au début de la crise, dans les premiers mois, il y a eu de forts dissensus au sein de la communauté scientifique sur la manière d'affronter cette pandémie, cette nouvelle pandémie. De la même manière que on pensait effectivement nos libertés individuelles et notre modèle démocratique, je dirais fortement installé et au fond presque, je dirais, indestructible. Et finalement, en particulier en ce qui concernait les libertés, on s'est retrouvé avec une série de restrictions allant même jusqu'à un confinement total qui était proprement inimaginable quelques mois ou quelques années avant. Bref, tout ce qui fondait un peu le triptyque de nos pays occidentaux riches, un peu avancés, la croyance en la science, la capacité à poursuivre la modernisation à travers la technologie, l'attachement à un modèle démocratique qu'on voudrait universel. Tout cela, quand même, a été fortement questionné durant cette crise.
Celui de la science, tout d'abord, qu'est-ce qu'a laissé apparaître cette crise? C'est que la science se construisait à travers des controverses, à travers des débats qui parfois pouvaient s'exprimer violemment. On a vu sur les plateaux télé des désaccords entre médecins, scientifiques, chercheurs, sur à la fois la nature même de l'épidémie, sur sa dangerosité ou non, sur les remèdes et les solutions qu'il fallait apporter sur le plan sanitaire et thérapeutique à cette épidémie. Et ces déchirements ont été très violents. On a vu aussi une science qui, très souvent, parce qu'elle se construisait, j'allais dire presque dans l'instantané de la crise, encore une fois sous les projecteurs des médias, et des caméras de télévision, on a vu une science se faire infirmer par la dynamique même de l'épidémie. Donc, tous ces débats scientifiques, toute cette hypervisibilité soudaine de la science a fragilisé vraisemblablement la parole scientifique, qui était une des rares paroles qui encore
faisait autorité
dans nos sociétés. Donc ça, c'est un problème, et c'est forcément pas une très bonne nouvelle pour, disons, les progrès de la rationalité suite à cette crise sanitaire. Le deuxième sujet, qui me paraît en effet un sujet lui aussi majeur, et qui, de ce point de vue-là, est assez inquiétant, et que moi je trouve assez anxiogène, c'est que on a vu des sociétés qui, sous la menace de la peur, sous la crainte du risque épidémique, ont accepté pratiquement sans aucune forme de critique des limitations parfois tout à fait massives de leur liberté publique et de leur liberté personnelle. En d'autres termes, ce qui est assez frappant avec cette crise, c'est la façon dont des sociétés très démocratiques, avec des générations qui d'ailleurs ont été socialisées très souvent dans un épanouissement démocratique incontestable, et ces sociétés ont accepté finalement, sans critique, sans réflexion, sans véritablement se poser la question des conséquences de ce qui leur a été imposé, ont accepté des limitations très fortes de leur liberté publique et de leur liberté personnelle. Et on a vu que finalement la liberté était un bien qui était certainement moins solide qu'on l'imaginait et beaucoup plus fragile. Donc c'est ces deux éléments, à la fois la fragilisation de la parole scientifique qui était fort peu discutée et fort peu discutable, et la fragilisation des libertés publiques qui nous apparaissait finalement, ces libertés publiques, comme un socle,
comme l'air qu'on respire,
indéracinable, ces deux sujets sont quand même des enjeux majeurs que l'on peut tirer, des leçons majeures que l'on peut tirer de cette crise.
Merci Arnaud Benedetti, c'est la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Paris-Sorbonne et également rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et que on a souvent l'occasion, et en tout cas à chaque fois qu'un nouveau numéro de la revue sort, de vous écouter sur l'antenne. Merci beaucoup Arnaud, et à très bientôt.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.